Donc, je suis ici dans la maison de quartier du centre de Lille, où sont présentés des artistes. Et parmi ces artistes, il y a notamment...
Chen Xia.
Voilà. Et en plus de ce vrai nom, vous avez aussi un nom d'artiste.
Oui, c'est Yu Ruji.
Et donc, votre spécialité, enfin, vous avez plusieurs cordes à votre arc, j'ai bien compris.
Oui, en fait, je fais la traduction et j'écris aussi des articles, des romans et j'écris des poèmes.
Donc, vous trouvez des auteurs français et vous les traduisez en chinois?
Oui, effectivement. Surtout, je traduis les poètes français comme Baudelaire, Gautier, Rimbaud. Mmh. Oui.
Donc, ces poètes dont vous parlez sont déjà anciens. Est-ce qu'on peut encore innover dans la traduction pour l'adapter à un public nouveau, voire jeune, chinois ?
Oui, c'est tout à fait possible. En fait, quand on fait la traduction, il y a des différences entre les langages et je crois qu'il faut faire des adaptations aux lecteurs modernes. Il y a certains traducteurs qui, des années 60, ils font des phrases plus... anciens de siècle dernier. Mais maintenant, en fait, beaucoup de lecteurs, ils cherchent de... nouvelle version, nouvelle traduction, et c'est ce que je veux faire pour eux.
Donc, à la fois, il y a du respect de l'auteur, mais il y a aussi une forme de liberté pour interpréter.
Oui, bien sûr. Et en fait, personnellement, je crois que la traducteur, c'est un créateur. Il doit d'abord comprendre l'auteur, qu'est-ce qu'il veut exprimer. Et il a ses compréhensions, il va exprimer de nouveau à sa manière propre.
Donc vous, vous êtes en France, à Lille. Vous avez bien sûr cette culture chinoise qui fait que vous abordez les auteurs français avec un regard d'étranger. Qu'est-ce qui vous a semblé intéressant dans la littérature française ?
Dans la littérature française, je pense que puisque c'est très différent avec la culture chinoise, on trouve dans la culture française plus de liberté. On est en fait plus audacieux et on a plein de nouveautés, de créativité. En fait, beaucoup de culture française a influencé la Chine aussi. Par exemple, les poèmes de Baudelaire, il a influencé de nombreux poètes chinois. Et on a essayé de fabriquer des sonnets comme Baudelaire. On a écrit des recueils comme Fleurs du Mal. Ça, c'est intéressant.
Et dans la littérature actuelle, est-ce que vous connaissez des auteurs ou même des poètes du 21e siècle ?
Du 21e siècle, je me dis...
En ce moment ?
En ce moment, Apollinaire, est-ce que c'est trop vieux ? C'est trop vieux. J'ai bien aimé un qui fait des sonnets modernes, mais j'ai... tout à coup oublier son nom.
Donc, les sonnets, bon, c'est, on va dire, un peu français, hein, d'accord ? Il est sorte d'écriture aussi de poésie japonaise, etc.
Oui, des petits poèmes, haïku de trois vers. Ouais. Oui, ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est court et on a plein de liberté. Et on est libéré d'anciennes formes japonaises. Il y a adaptation en français. En fait, on ne suit plus les règles de 5, 7, 5 syllabes. On a plus de choix pour exprimer ce qu'on veut.
Et si on prend Li Bai, par exemple, hein, chinois hein.
Ah, oui, Li Bai. En fait, je ne sais pas s'il est assez connu en France. C'est un très grand poète en Chine. Il y a aussi des traducteurs qui a traduit ses œuvres. En fait, ce que m'intéresse, est-ce qu'il est connu puisque je sais que beaucoup de Français connaissent haïku, les poèmes les japonais, mais poèmes chinois, peut-être c'est un peu connu, pas très connu en France.
Ben, je crois que quand on étudie un peu la Chine, on est obligé de connaître rapidement Li Bai.
Ah oui, Li Bai. Li Bai et Du Fu, c'est les deux plus grands poètes qu'on doit connaître.
En plus, vous voyez, quand on aime boire un peu comme ça, Li Bai, c'est incontournable.
Oui, oui, oui. Il écrit des poèmes après trop bu. Après bu, il écrit des bons poèmes.
Alors, c'est vrai que si on prend Baudelaire, des gens comme ça, ils avaient tendance aussi à consommer pas mal de choses. Hein. Est-ce qu'on retrouve donc le même niveau d'inspiration, échapper en fait au commun des mortels pour devenir d'un seul coup un créateur illuminé qui d'un seul coup se sent révélé par une forme d'écriture ?
Oui, en fait en Chine on dit que le vin nous encourage. Ce qu'on n'ose pas de dire quand on est réveillé, on peut le dire quand on est ivre. Oui, c'est ça. On ose dire des choses intérieures, dans le cœur.
Donc, cette année, je suis allé à la montagne Taibai, dans le Shanxi, et je suis allé à l'endroit où Li Bai s'est reposé et où il a beaucoup bu. Et il a écrit plein de choses et qu'on garde encore précieusement en Chine.
Oui, oui, bien sûr. On a plein de monuments pour garder son mémoire.
Et pourquoi lui est resté permanent dans le temps? Il est encore bien connu, étudié, même les petits-enfants en Chine?
Parce qu'il écrit trop bien. C'est la seule raison, oui.
Et donc, l'écriture de l'époque, est-ce que maintenant qu'on lit ce qu'il a écrit, on peut encore le lire facilement ou c'est compliqué?
Oui, on peut le lire facilement. En fait, le langage de poème, on n'a pas beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui. Les poèmes de l'Antiquité, on le lit, on sent que c'est une langue vivante. C'est très proche de notre langue moderne.
Alors nous, on connaît bien sûr les écrits de Li Bai, mais on ne sait pas comment il les disait, ces poèmes.
Comment les disait?
Dans quelle façon de parler, quelle était sa façon d'interpréter? Et il y avait une voix comment? Et est-ce que ce sont les mêmes sonorités que maintenant quand on les lirait en chinois?
Il y a des différences en prononciation, c'est bien sûr. La prononciation a beaucoup évolué. Mais en principe, on a gardé les caractéristiques des mots, et surtout pour les rimes. Si une prononciation change, tous les mots qui ont la même prononciation changent en même temps. Donc comme ça, on peut encore comprendre les rimes. Mais il y a des rimes, c'est déjà perdu. On parle différemment.
Donc en Chine, on a beaucoup d'auteurs qui ont écrit, mais aussi, on imagine ces auteurs dans la nature ou dans des lieux immenses où ils sont tout petits, mais ils sont créatifs, ils occupent cet espace où ils sont.
Oui, il y a, il y a des poètes qui surtout aiment écrire des poèmes pour les paysages, la nature, comme Wang Wei, Tao Yuanming. Ils se jouissent dans la nature et c'est avec la nature qu'ils ont trouvé une harmonie.
Et c'est peut-être ce qui les rend justement encore actuels, parce que la nature, c'est quelque chose qu'on protège, donc on protège peut-être aussi ceux qui s'en sont inspirés.
Vous avez raison, oui. En fait, quand on est dans la nature, on regarde des jolis paysages. On est paisible, on est tranquille, et c'est à ce moment-là qu'on a des poèmes naturellement dans la tête.
Alors peut-être qu'on pourrait demander à Song Ling hein, un autre jour, ou maintenant, je ne sais pas, on verra tout à l'heure peut-être. Donc quand on voit la peinture, notamment traditionnelle, où on voit ces paysages, etc., est-ce qu'il y a le même rapport entre le peintre et la nature qu'entre le le poète et la nature. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est à peu près en phase ?
Bien sûr, c'est poète et peintre. En fait, dans l'ancien temps, ce n'est pas des métiers très indépendants. Un poète peut être un peintre. Et ça arrive souvent. Et on a beaucoup de poèmes qui sont créés surtout en base de tableaux. Par exemple, un poète, il peut voir un tableau de quelqu'un et puis il trouve ces paysages dans le tableau, lui a inspiré, donc il écrit un poème pour ce tableau.
Est-ce qu'un poète en Chine est considéré comme un lettré, qui a un statut cultivé, etc.?
Dans certains cas, oui, c'est oui. Mais on a aussi des poètes qui n'est pas trop élevé. Mais en principe, c'est ceux qui a appris des savoirs, qui écrit des poèmes. À l'Antiquité, on n'a pas assez de chance pour tout le monde d'apprendre la littérature, de savoir. C'est ceux qui, comment dire, avec une situation plus commode, qu'ils ont la chance pour apprendre des savoirs, et comment écrire, comment lire. Des familles trop pauvres, en fait, ils n'ont pas beaucoup de chance pour ça.
Alors c'est vrai que dans les écoles chinoises, tous les enfants apprennent des poèmes, encore comme en France d'ailleurs. Hein. On apprend des poèmes, des petites comptines, des petites chansons faciles à retenir. Ce serait quoi pour vous le poème le plus court et le plus facile à retenir dans votre mémoire?
Et c'est un poème de Li Bai que tous les Chinois connaissent. Je vais lire en chinois. 床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。 Là, c'est un poème qui écrit sa mélancolie. Quand il regarde la lune, il pense à son pays natal.
Est-ce que vous pensez souvent à votre pays natal?
Oh, bien sûr. Ma famille est en Chine et mon chien aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me manquent là-bas.
Donc, pour vous, Nouvel An chinois, c'est quelque chose d'important? Vous y pensez un peu?
C'est très important, la fête plus importante de l'année. Et on pense que Nouvel An, c'est après notre calendrier lunaire. C'est le début de Nouvel An et c'est la fin de l'année passée. Et des familles se réunissent et on mange ensemble et on regarde télé et on bavarde. Oui, ça c'est une occasion de parler avec la famille, de se réunir.
Et comment on dit bonne année alors?
Xin nian kuai le.
Bien, xin nian kuai le.
Merci beaucoup.